Bonjour! Aujourd'hui, à l'émission Conte-moi ton histoire, je reçois l'historienne et professeure titulaire au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, Madame Geneviève Dumas. Vous êtes notamment spécialiste d'histoire médiévale et du monde arabo-musulman. Vous vous intéressez à l'histoire de la médecine et des sciences autour de la Méditerranée en unissant des approches d'histoire urbaine, d'histoire culturelle, d'histoire matérielle et d'histoire des idées. Dans votre dernier ouvrage, Images de vie, spéculation et expérimentation dans un traité d'alchimie médiévale, vous analysez un manuscrit qui relate le travail en laboratoire d'un alchimiste anonyme. Vous le faites à partir d'un traité présenté comme un vade-mecum, complet, illustré de dessins techniques, qui montre la démarche scientifique de son auteur anonyme ou de ses auteurs. Présentez-nous, professeur Dumas, ce manuscrit, daté de la fin du 15e siècle, nommé Western 446 et détenu à la Wellcome Library de Londres, et aussi pourquoi avoir choisi de publier un tel traité d'alchimie.
Merci pour ces questions, Madame Lantier, qui sont multiples. Donc, je vais commencer par le commencement. En fait, j'ai trouvé ce manuscrit lors d'un fellowship que j'avais obtenu pour aller travailler à la Wellcome Library et à la British Library de Londres. Et dans ce fellowship-là, avec pour objet tout autre sujet, mais quand je suis arrivée à la Wellcome, j'ai vu dans le catalogue traité d'alchimie 15e siècle en français. Et mon sponsor, qui était professeur Vivian Nutton, m'avait dit « Regardez donc en même temps s'il n'y a pas des traités en français. Il y en a beaucoup. Personne n'a travaillé là-dessus. » Et donc, chaque fois que je voyais en français, je le faisais venir. Quand j'ai vu le traité dont vous avez parlé des images spectaculaires, j'ai été tout de suite séduite par déjà l'aspect de ce traité, mais aussi par la langue, une langue du nord de la France, un beau moyen français et une belle écriture aussi du type d'écriture que j'aime bien, moi, paléographier. Donc, j'ai gardé ce manuscrit et je le paléographiais à temps perdu en attendant les autres manuscrits que j'avais commandés. Et à la fin de mon premier séjour, j'ai terminé de le retranscrire une première fois. J'ai obtenu un deuxième fellowship à la Wellcome et à la British Library. Et là, j'en ai profité pour vérifier, faire toutes les vérifications sur ma transcription. Et plus je lisais ce manuscrit, plus je m'intéressais à son contenu. C'est-à-dire que sur le coup, c'est la forme qui m'avait séduite. Mais bien sûr, là, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce contenu? Alors, je me suis mis à faire des recherches ici et là, commencé à lire sur l'alchimie, à m'intéresser à l'alchimie médiévale. Et éventuellement, ça m'a permis là de construire un commentaire autour de ce manuscrit explicatif. J'avais toujours eu le but, comme objectif, si on veut, de faire avec ce traité une espèce de vulgarisation scientifique sur cette alchimie qui a mauvaise réputation, dont qu'on élimine du revers de la main en disant c'est n'importe quoi, c'est du charabia. Alors moi, j'avais plutôt l'intuition qu'il y avait dans ce traité-là, comme dans d'autres, pas tous, mais comme dans d'autres, un contenu positif qui annonce une proto-science, celle de la chimie et même de la métallurgie moderne. Et donc, mon objectif était justement de faire la médiation de ces connaissances-là par le biais du manuscrit.
Et ce manuscrit, ce traité donc d'alchimie, pourquoi garde-t-il l'anonymat? Qui en est son auteur ou ses auteurs?
On a longtemps pensé que ce manuscrit-là avait été écrit par le pseudo Raymond Lull. Vous savez, l'alchimie est une discipline dans laquelle on a cultivé la pseudépigraphie, c'est-à-dire les auteurs se mettent leurs ouvrages sous des noms prestigieux et ainsi se sont constitués des grands corpus pseudépigraphiques, dont celui de Raymond Lull. Et comme un des titres de ses œuvres pseudépigraphiques de Raymond Lull est Imago Vitae, on a pensé longtemps que ce manuscrit, en tout cas c'est ce qui était marqué dans le catalogue, était une traduction en français de ce traité, mais il n'en est rien en fait. Quand on examine le contenu, on voit qu'il n'a aucune ressemblance avec le traité Imago Vitae. À ce stade, il n'a aucune ressemblance avec aucun des manuscrits que j'ai pu consulter et j'ai quand même fait le tour d'un certain nombre de fonds d'archives. Bien sûr, pas tous. Il y a un manuscrit à Pavie qui lui ressemble un peu, il y a un manuscrit à Cambrai qui lui ressemble un peu, mais du point de vue du contenu, Il n'y a pas de manuscrit là, qui lui ressemble. Donc, à ce stade, c'est donc un manuscrit anonyme. On n'en connaît pas l'auteur. Et tout ce qu'on peut faire, c'est spéculer sur qui peut-il être. Visiblement, ce n'est pas un clerc des universités, puisqu'il utilise très peu le latin, bien qu'il le connaisse, puisqu'il a sans doute consulté un certain nombre de traités d'alchimie en latin. Il n'a pas... le réflexe d'émailler son texte de latinisme, comme c'est le cas chez les clercs médiévaux. C'est sans doute quelqu'un des métiers, forgeron, la monnaie, mais...
Vous dites même peut-être un individu qui faisait des enluminures?
Oui, tout à fait, puisqu'il a certainement accès, notamment pour la confection de son programme iconographique qui est très extensif, il a quand même eu accès à des manuscrits, des traités sur les arts, sur les couleurs, sur les encres. Sur le dessin aussi, probablement au compas, puisque une série de planches à la fin du traité montre des dessins exécutés au compas.
Dites-moi, professeur Dumas, la paléographie, cette science auxiliaire de l'histoire, vous permet justement d'être attentive à ce geste, à cette écriture, et peut-être vous permet de saisir qu'il y a eu plus d'un auteur de ce traité.
Oui, en fait, il y a un petit cahier qui a été rajouté, en fait, au traité, et dans lequel on change de main. Pour quelques folios. La phrase qui conduit à ce changement de main est tout à fait intacte, mais à la fin de ce cahier, la correspondance ne se fait plus et on ne peut que spéculer sur les raisons de cet ajout change un peu de ton. On voit aussi qu'une écriture, l'écriture est plus raffinée, on voit que c'est probablement un scribe plus professionnel, peut-être un scribe professionnel, et un petit peu plus tardive, mais à peine, en fait, pas beaucoup plus tardive. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a perdu ces feuillets et quelqu'un s'est dit on va les remplacer? Est-ce que l'alchimiste s'est senti mal et a demandé à un apprenti, par exemple, de reprendre le fil? En fait, on n'a pas de façon de répondre de façon définitive à cette question-là. On ne peut que spéculer.
Permettez-moi, professeur Dumas, vous dites à un moment donné dans votre ouvrage, je vous cite, que la fin ultime poursuivie par l'alchimie médiévale est de trouver le secret de tous les secrets relié à la gloire inestimable de la pierre philosophale. Ça rappelle même Aristote.
Oui.
D'une part, qu'est-ce que cela veut dire? Et d'autre part, c'est quoi l'alchimie au Moyen Âge?
Le secret des secrets, c'est quand même une formule qui est beaucoup utilisée au Moyen Âge pour approcher, si on veut, la connaissance ultime. La connaissance ultime, la rencontre aussi, la rencontre avec la divinité en quelque part, parce que le Moyen Âge c'est une période où rien ne se fait sans la présence de Dieu, sans l'intervention divine. Et donc, il y a des aspects de l'alchimie qui sont des alchimies mystiques, c'est-à-dire qui visent à la perfection de soi. L'âme étant comme le métal vil, il est perfectible et par toutes sortes de manœuvres et par toutes sortes de contritions, on arrive à la perfection de l'âme. Et donc, il y a dans cette formule beaucoup de sens que l'on peut en tirer. L'alchimie médiévale, effectivement, elle est au-delà de ce qu'elle a de spectaculaire et ce que le cinéma nous en a laissé comme image, c'est-à-dire quelque chose d'un peu folklorique, dans des officines sombres, magiques, etc. Il y a toute une image de l'alchimie qui est véhiculée depuis le 16e siècle, hein, parce que tout ça rebondit sur des représentations de l'alchimie qui datent de très longtemps. longtemps. Donc, au-delà de cet aspect un peu anecdotique, il reste que l'alchimie médiévale, elle, en tout cas, elle s'est présentée sous trois formes bien distinctes. Une alchimie, comme je l'ai dit, mystique, c'est-à-dire une alchimie qui relie la perfection de l'âme à une série de manœuvres. Une alchimie qu'on pourrait appeler une alchimie médicale, c'est-à-dire qu'à la suite de Roger Bacon, qui utilise le père d'ailleurs de ce mot de gloire inestimable, qui croyait à la fontaine de Jouvence, hein, qui croyait fermement qu'on pouvait vivre à l'éternité et qu'il ne s'agissait que de trouver la bonne formule, en fait, pour y arriver. Et cette formule-là, elle s'appelait la gloire inestimable. Et à la fin de sa vie, il nous livre qu'il pense bien que c'est l'alchimie qui permet là, d'arriver à cette longévité. Et de là, on l'appelle la médecine universelle, l'élixir universel, hein, le résultat de l'alchimie a souvent ce nom-là. Et il y a une alchimie que je dirais métallurgique, c'est-à-dire qu'elle, justement, c'est celle qui nous concerne là, avec image de vie, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus positif, expérimental, dont l'ensemble des présupposés se passe vraiment dans le laboratoire, avec un mobile bien précis, avec des instruments bien précis, et qui, en tant que proto-science, va mener à la chimie métallurgique des temps modernes et à la chimie, bien sûr, des temps modernes.
C'est une alchimie dans l'image de vie qui est beaucoup plus concrète, n'est-ce pas?
C'est ça. C'est une alchimie qui, hein, bien qu'elle véhicule les allégories, les métaphores qui sont le propre du discours alchimique, elle le fait rapidement pour passer directement aux recettes et aux procédures. Et c'est là que l'intérêt de ce traité-là est dans le traitement que l'alchimiste fait des procédures et des séquences.
Très intéressant, professeur, dis-moi. Et dites-moi, pour la période qui nous intéresse, nous sommes donc à la fin du Moyen-Âge, l'alchimiste, est-ce un médecin? De quelle profession vient-il ou à quel métier appartient-il?
En fait, il n'y a pas de corporation de métier d'alchimiste, puisque l'alchimie, c'est une activité qui est parallèle. C'est-à-dire qu'elle, de toute façon, elle n'est pas complètement admise par tous. Hein. Il y a un certain nombre de lois, d'ailleurs, qui l'interdisent. Surtout en termes de fausse monnaie. Hein. On voudrait surtout pas que les alchimistes réussissent et puis qu'ils fassent de l'or et puis qu'on soit capable de passer ça pour de la fausse monnaie. Mais toujours est-il que c'est une activité parallèle. C'est une activité qui demande quand même pas mal de fonds parce qu'il faut donc s'autofinancer, trouver les instruments, les faire fabriquer, etc. C'est une science marginale. Comme on dit aujourd'hui, c'est une fringe science, même au 14e, 15e siècle.
Est-ce qu'ils sont considérés comme des marginaux à la fin du Moyen Âge, les alchimistes?
On pourrait dire que oui, parce que comme ils n'exercent pas leur discipline en plein jour, ils sont effectivement marginalisés. Néanmoins, il ne faut pas exagérer cette marginalisation-là, parce que l'alchimie au 15e siècle, elle devient en quelque sorte, excusez-moi les latinismes fréquents, mainstream. Hein, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans la littérature vernaculaire, c'est un thème populaire. Et donc, même si ces gens-là sont un peu marginalisés, il reste que l'alchimie, elle profite d'un engouement qui se transpose dans toutes les facettes de la société, que ce soit dans les arts littéraires, les arts picturaux, etc. On voit beaucoup d'alchimie au 15e siècle.
Puis, est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'à la fin du Moyen Âge, début de l'époque moderne, disons-le ainsi, que l'Inquisition pourrait être troublée par les alchimistes? Est-ce qu'on les cible, les alchimistes?
Bon, il est clair qu'on entre là dans un dossier un peu complexe dans la mesure où il y a eu effectivement un certain nombre de glissements qui a permis à l'Inquisition, qui au départ, sachez-le, ne s'intéressait qu'aux hérétiques, à graduellement inclure un certain nombre d'activités hétérodoxes qui sont généralement connues sous le terme de sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a fini par inclure la sorcellerie. Comme la sorcellerie, sa définition sont très vagues. Parfois, il y a des gens, effectivement, qui sont traînés en cours de justice pour des activités qui incluent, par exemple, faire des potions, utiliser des alambics, etc. Mais on ne peut pas dire que l'alchimie, elle est réprimée Hein? Elle est réprimée quand elle frôle ce qu'on appelle les sciences, les activités mal vues. Et c'est surtout, dans notre cas, la magie, la sorcellerie. L'alchimie comme telle, elle reste assez sauf de ces préoccupations-là.
Parmi les grands noms de l'alchimie médiévale, on retrouve Arnaud de Villeneuve et Raymond Lulle. Pourriez-vous nous dire qui sont ces personnes-là qu'on rencontre constamment dans votre ouvrage? En tout cas, du moins dans sa première partie.
Alors, ces deux personnages-là, dont il faut comprendre que dans le cadre de l'alchimie, ce sont des pseudonymes, ils ont véritablement existé. Arnaud de Villeneuve était un médecin de Montpellier, de l'Université des médecins de Montpellier, fin 13e, début 14e. Et Raymond Lulle est son contemporain, c'est un penseur de la même époque, de la même région, mais un philosophe qui est d'ailleurs encore beaucoup étudié en philosophie. Alors, ces deux personnages-là ont véritablement existé. Ils avaient visiblement de leur vivant une certaine réputation, ce qui a fait en sorte que les alchimistes se sont attachés à ces noms-là, et à ces deux noms-là, on a attaché deux corpus assez volumineux de traités d'alchimie qui ont abusé les historiens jusqu'à très récemment. Hein. Jusqu'à très récemment, on a compté parmi les œuvres d'Arnaud de Villeneuve des traités d'alchimie dont il n'était visiblement pas l'auteur.
Professeur, dis-moi, au plan personnel, cette publication-là, « Images de vie, spéculation et expérimentation dans un traité d'alchimie médiévale », elle se situe où dans votre parcours de chercheur? Vous la voyez comment, cette étude, dans votre trajectoire de médiéviste?
Elle correspond à un intérêt que je cultive depuis très longtemps, mais que mes études sur la médecine médiévale, qui sont nombreuses et qui m'ont beaucoup portée, m'ont empêché d'attaquer, je dirais, précisément. Mais ça fait quand même un certain temps que je visais à travailler davantage sur l'histoire des sciences et des techniques et leur résonance dans la société. Alors, c'est effectivement Image de vie, me permet justement d'envahir ce champ de façon plus concrète et de façon plus tangible. C'est-à-dire que je traitais déjà de l'alchimie en histoire de la médecine, mais là, ça me permet de traiter de l'alchimie comme une science et une technique médiévale. Et ça, c'est un des aspects de l'histoire des sciences médiévales qui m'intéresse beaucoup actuellement. Donc oui, ça a une résonance parce que ça me permet d'envahir un champ pour lequel j'avais beaucoup d'affinité.
Puis est-ce que ce champ-là vous ouvre sur un autre champ qui est l'histoire matérielle? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'histoire matérielle présents dans votre livre. Oui. Parlez-moi un peu de votre ouverture à l'histoire matérielle.
Ah, tout à fait. C'est
à l'archéologie.
C'est ça. C'est un livre qui a... Le traité étant abondamment illustré, comme vous l'avez vu, avec des dessins qui sont quand même très, très précis, on a été en mesure de faire un certain nombre de vérifications avec les fouilles archéologiques qui se multiplient, en fait, et qui trouvent de plus en plus d'instruments, des alambics, des crucibles, etc., qui nous permettent là, de documenter bien davantage le mobilier du laboratoire d'alchimie. Et il est clair que cette connivence récente entre l'archéologie et l'histoire nous permet vraiment d'aller très, très loin dans notre compréhension des choses. Bien sûr, on pourrait aller encore plus loin. J'avais eu l'idée, et je la cultive toujours, de faire un laboratoire virtuel et de faire en sorte que tous ces instruments, il y a 56 instruments illustrés dans ce traité, tous ces instruments trouvent leur place dans un décor qui serait le laboratoire de l'alchimiste et dans lequel on pourrait là, passer d'un instrument à l'autre et voir un peu comment ça se passe. J'avais même velléité de faire un petit jeu dans lequel on pourrait justement faire subir au métal un certain nombre de choses et puis, bon, avancer dans une quête initiatique vers la perfection et la perfection de l'adepte. Alors, un jour, qui sait, je pourrais peut-être aller jusque-là. Mais pour l'instant, la première étape était de retranscrire et de rendre le traité accessible aux spécialistes. Donc, une édition du texte complète, agrémentée du facsimilé. Et ainsi, maintenant, tout le monde peut y avoir accès et ce n'est que le début de cette recherche sur Images de vie. C'est la première pierre, c'est la première étape. Après, on pourra faire beaucoup d'autres choses.
C'est quoi la journée typique d'un alchimiste comme celui qui écrit Images de vie, par exemple?
Bon, cet alchimiste-là, il faut convenir avec vous qu'il a beaucoup plus de temps que nous. C'est-à-dire qu'il est au Moyen Âge et donc il n'est pas pressé par le temps. Une opération peut prendre 25 jours. Hein, on doit garder, par exemple, la substance en fiente enterrée pendant 25 jours. Et donc, il faut être assez patient pour faire de l'alchimie au Moyen Âge. Et pour des résultats qui ne sont pas non plus très consistants dans la mesure où, même en répétant l'expérience toujours de la même façon, et on voit dans ce traité que c'est son intention de créer un standard de la procédure, il reste que, par exemple, pour trouver de l'eau de vie, ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de manœuvres pour obtenir quelques gouttes du précieux liquide. Hein? Alors, la journée typique, elle est faite d'attente.
C'est extraordinaire. Les premiers textes d'alchimie sont écrits en grec, puis viennent des traductions en arabe et ensuite en latin. À la fin du 14e siècle, début du 15e siècle, il émerge une alchimie latine et vernaculaire. Peut-on dire que les alchimistes sont des passeurs culturels?
Leurs destinataires sont particulièrement restreints. Parce que c'est quand même une science initiatique et qui fait en sorte que le langage est extrêmement crypté. Parce que, justement, il ne s'adresse qu'aux quelques-uns élus qui pourront comprendre le sens de ces métaphores, de ces allégories. Et donc, c'est un passage culturel qui se fait à un très petit auditoire. Mais, on peut le voir autrement, en termes d'impact sur la société, on peut dire que l'alchimie au 15e siècle, justement parce qu'elle imprègne tous les milieux culturels, elle a réussi en fait à passer d'une science qui se transmet de quelques-uns à quelques-uns, à devenir en fait un phénomène de société qui intéresse des Philippe de Mézières, mais aussi des Chaucer, des Shakespeare, donc ça veut dire que quand même d'une science obscure et initiatique, on en a fait un thème culturel important.
Professeur Dumas, dans votre conclusion, vous nous révélez qu'est-ce qui est unique de ce traité d'alchimie. Pourriez-vous nous en dire plus?
Oui. Ce qui est unique dans ce manuscrit d'alchimie, à ce stade, c'est que l'auteur, le présentateur, comme je l'ai appelé, se préoccupe d'utiliser son programme iconographique pour illustrer des procédures complexes. Et ce faisant, il va décliner les séquences de ces opérations et mettre les images en marge, et les images seront numérotées par des lettres et ensuite par des numéros qui vont faire en sorte qu'on est en train véritablement de créer un protocole expérimental, avant la lettre bien sûr, mais on se préoccupe donc de répéter ces opérations-là à l'identique, pour être sûr que le résultat est toujours le même. Or, bien sûr, on n'a pas là ce qui est le propre du protocole expérimental tel qu'il sera élaboré au 19e siècle, c'est-à-dire avec une hypothèse de départ et avec une possibilité de colliger des données. Mais on a un des caractères une des caractéristiques principales de ce protocole expérimental, c'est celui de répéter à l'infini la même opération pour être certain d'arriver au même résultat. Alors, cette particularité du manuscrit Image de vie, on ne le trouve dans aucun autre manuscrit du 15e siècle et il apparaîtra tardivement même au temps moderne, cette faculté de prendre le dessin technique et de l'arrimer à des descriptions de séquences pour faire en sorte que chacune des séquences soit illustrée par un instrument, une manœuvre ou une procédure.
On peut donc dire qu'il est à la base même de la proto-science en quelque sorte.
Tout à fait.
Professeur Dumas, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette belle invitation.
Merci, c'est merci à vous, Madame Lantier.